RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Tout le monde a été pris de court à Kinshasa comme à Brazzaville. En pleine saison sèche, les deux capitales frappées par des pluies diluviennes dans la nuit de vendredi à samedi. Les dégâts sont importants et l'on compte ce matin une vingtaine de victimes de part et d'autre du fleuve Congo. Nous serons à Brazzaville dans un instant. Dans ce journal également, le Burundi est la main tendue du président après les élections législatives. Évariste Ndayishimiye dit qu'il aura besoin de tout le monde, même des perdants. Réaction mitigée dans l'opposition burundaise. Le Tchad, un mois après l'arrestation de l'opposant succès Masra. Et notre dossier ce matin au Cameroun, où nous avons suivi un cinéma itinérant qui a fait étape cette semaine, notamment à Douala. À Kinshasa, comme de l'autre côté du fleuve Congo à Brazzaville, on a passé la même nuit entre vendredi et samedi. Une nuit marquée par des intempéries de très fortes pluies alors que la saison sèche a démarré. Des pluies dévastatrices, meurtrières même, puisque les autorités de RDC comptent au moins 19 morts et 3 chiffres provisoires ce dimanche matin pour le côté Congo-Brazzaville. Et des dégâts importants des deux côtés du fleuve. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial.
Nous sommes à Masengo, quartier nord de Brazzaville. L'avenue non bitumée est sans dessus dessous. Sur une partie, les conduites d'eau sont à ciel ouvert. Les torrents d'eau tombés sur la ville ont emporté la terre qui les recouvrait. Plus loin, un ruisseau est sorti de son allumé. Des jeunes transportent des piétons sur leur dos, potentiellement 150 francs. D'autres utilisent une pirogue.
On est surpris, il y avait la pluie. Subitement ce matin-là, vraiment ici-là, c'est l'embuscade. Parce qu'avec l'eau, quand ça revient comme ça, avec le goudron, ça marche pas.
Quitter sa maison pour gagner un autre coin de la ville n'a pas été chose facile.
On s'est égaré à Mikalou, là, la voie telle que vous voyez ici. Là. Il y a inondation, on ne peut pas se déplacer et tout.
Le sable, drainé par les eaux, a envahi une bonne partie du terminus de Mikalou, toujours au nord. Les habitations n'ont pas été épargnées.
Comme chez moi, là-bas, la nuit, c'était vraiment le calvaire. Les voisins sont venus là, oh non, sors. Je suis resté dans la maison. Parce qu'avec les tonnerres, là, je ne pouvais pas sortir. Parce que j'avais peur.
La pluie, en pleine saison sèche, une surprise pour plus d'un Brazzavillois. Beaucoup y voient la manifestation de changement climatique. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Un changement climatique également mis en avant par le météorologue congolais Augustin Taguisabo. Faut-il s'attendre à ce que le phénomène se reproduise? On ne peut pas le prévoir exactement, mais pour le chef de division du Centre météorologique national de RDC, l'événement climatique de la nuit de vendredi à samedi s'explique.
Cette pluie nous vient de l'extérieur, du vent nord-ouest et venant du golfe de Guinée qui est en train de pénétrer les continents vers la partie ouest. Il traverse le Gabon, le Congo-Brazzaville et puis il atteint la ville province de Kinshasa. Il nous amène des amas nuagés qui apportent des masses de pluie. C'est un phénomène extraordinaire pendant cette période et passagère. Donc, nous sommes en train de surveiller et combien de temps ça peut prendre parce que si plus le flux de vent du nord-ouest est en train de pénétrer, nous risquerons d'avoir de pluie durant toute la saison.
Le météorologue congolais Augustin Taguisabo, joint par Pascal Moulégois, la République démocratique du Congo, où par ailleurs la société civile évoque désormais un bilan à plus de 60 morts après le naufrage en milieu de semaine de plusieurs pirogues sur le lac Tumba dans la province de l'Équateur. 26 nouveaux corps ont été retrouvés dans les eaux hier, affirme le secrétaire de la coordination de la société civile de cette province. Et l'actualité politico-judiciaire avec le député de la majorité présidentielle Nicolas Cazadi, qui ne sera pas poursuivi par la justice pour ses propos jugés un temps passible de propagation de faux bruits et de divulgation de secrets d'État. L'Assemblée nationale a rejeté la requête du procureur général pour pouvoir le poursuivre. Aujourd'hui, les parlementaires doivent se pencher sur la situation du ministre de la Justice, Constant Mutamba, sous le coup de poursuites pour détournement présumé de deniers publics. Ces déclarations du chef de la diplomatie du Rwanda, aucun accord accord de paix ne sera signé aujourd'hui avec la RDC. Mi-juin, c'était l'objectif de calendrier évoqué un moment par la médiation des Nations Unies, des États-Unis, pardon. Les négociations dans le même temps se poursuivent et pour la première fois cette semaine, des experts des deux pays, donc le Rwanda et la RDC, se sont parlé directement. RFI 8h35 à Gitega, où c'est désormais tout l'exécutif burundais qui a pris la parole. Le ministre de l'Intérieur jeudi, le Premier ministre le lendemain et hier, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Après l'annonce des résultats des élections législatives de la semaine dernière, remportées littéralement sans partage par son parti, le CNDD-FDD, désormais le seul à siéger à l'Assemblée nationale. Alors que les opposants dénoncent les conditions dans lesquelles le scrutin s'est tenu, c'est justement à son opposition que le chef de l'État s'est adressé, Esdras Ndikumana.
La victoire écrasante de son parti, le CNDD-FDD, au double scrutin du 5 juin, elle ne signifie pas l'instauration d'un parti unique comme beaucoup s'en inquiètent. Et d'ailleurs, dit-il, j'aurais besoin de tous et même des perdants. Il a donc tendu la main à l'opposition à qui il demande d'abord de s'adresser aux institutions qui dirigent le pays en commençant par lui-même, avant de porter plainte pour les irrégularités dont ils se plaignent. Évariste Ndayishimiye.
Il faut savoir que la CENI, c'est une commission nationale indépendante qui est déléguée pour organiser les élections pour le pays. Donc si les agents de la CENI font mal leur travail, ceux qui sont lésés ont toute latitude de se référer aux institutions qui les ont déléguées pour leur dire « Ceux que vous avez désignés sont en train de travailler contre nous ». C'est pourquoi il faut d'abord voir les institutions qui dirigent le pays.
Cette proposition a fait tiquer plus d'un dans l'opposition burundaise. Le porte-parole de la coalition Burundi Bravo, c'est un Burundi pour tous en français, rappelle que les élections sont régies normalement par un cadre légal très strict, Kefani Wizi.
Pendant la campagne, il se présentait comme le leader principal du parti au pouvoir. S'il faut faire un recours auprès de lui, c'est une forme d'arrangement politique et non pas dans le cadre légal. Parce que le cadre légal prévoit des recours qu'il faut faire, mais nulle part on ne cite pas la présidence de la République.
Un autre opposant qui a requis l'anonymat estime que, je cite, « la sortie médiatique du chef de l'exécutif burundais sur le processus électoral est une faute politique qui vient confirmer que la CENI est aux ordres, comme on l'a toujours dit », fin de citation.
Esdras Ndikumana au Tchad. Cela fait maintenant 30 jours que l'opposant Succès Masra a été arrêté. Le président du parti Les Transformateurs, ancien premier ministre, accusé d'incitation à la haine après des heurts intercommunautaires dans le sud du pays le mois dernier. Hier au siège des Transformateurs, les membres du parti ont dénoncé une procédure selon eux politique. Écoutez Djengelbay Ndigengar, conseiller de Succès Masra, interrogé hier à l'issue de la réunion à N'Djamena.
La mobilisation s'est très très bien passée dans le calme, de manière pacifique, et nous avons utilisé des mots, des discours pour réclamer donc sa libération. L'affaire est purement politique, étant donné que le porte-parole du gouvernement lui-même l'a affirmé sur les ondes de Tchad Info, comme quoi l'affaire Masra Succès est une affaire purement politique. Et vu que c'est politique, toute la procédure juridique et judiciaire n'a plus d'avenir. Il faut donc que le président de la République intervienne pour que cette affaire s'arrête là et qu'on puisse libérer Masra Succès. On garde espoir et on croit aussi à un esprit patriotique de tout le monde. Et l'incarcération de notre président est un danger pour notre pays. Notre pays a besoin de dialogue, a besoin d'une consultation pour que toutes les forces vives de la nation, quelle qu'en soit leur opinion, ne puissent pas craindre le pire.
L'opposant tchadien Djengelbay Ndigengar. Une nouvelle illustration au Nigeria, des violences qui touchent régulièrement le centre du pays. Dans la nuit de vendredi à samedi, une centaine de personnes ont été tuées quand des hommes armés ont attaqué un village, la localité de Yelawata. Clotilde Hazard.
L'attaque a été menée de façon coordonnée. Trois groupes ont encerclé le village par différents accès, tirant en rafale et semant la panique. Selon des témoins, les assaillants ont ciblé des maisons et des boutiques où des habitants dormaient encore. Du carburant aurait été versé sur certaines portes avant d'y mettre le feu. Des familles entières ont été piégées dans les flammes. D'autres victimes ont été abattues en tentant de fuir. Parmi elles, beaucoup de personnes déplacées des villages alentours, réfugiées à Yelewata justement en raison de la recrudescence connaissance des violences ces derniers mois dans la région. Le porte-parole du gouverneur de Benoué confirme la mort de 45 personnes, mais sur place, des habitants évoquent un bilan bien plus lourd, jusqu'à 100 morts. Cette attaque s'inscrit dans une spirale de violence entre éleveurs peuls et agriculteurs sédentaires dans la ceinture centrale du pays. Les tensions se cristallisent autour de la question du contrôle des terres et de l'accès aux ressources naturelles de plus en plus limitées sous l'effet du changement climatique et de l'expansion démographique. Selon Amnesty International, plus de 6800 personnes ont été tuées dans l'état de Benoué au cours de ces deux dernières années. Il y a deux semaines à peine, 25 personnes y avaient déjà été tuées dans une attaque similaire.
Clotilde Hazard. Dans l'actualité ce matin également, cette manifestation de plusieurs milliers de personnes hier à Abidjan, des militants et des sympathisants du PDCI, le principal parti d'opposition. PDCI qui a réclamé la réintégration sur les listes électorales de son leader, Tidiane Thiam. Radié de la liste et donc inéligible après une décision de justice contestant sa nationalité au moment de son enrôlement. La Côte d'Ivoire où l'élection présidentielle est prévue au mois d'octobre. L'Afrique du Sud, Pretoria, annonce lancer des recherches dans 4 pays, l'Angola, le Lesotho, le Zimbabwe et la Zambie, dans lesquels les autorités sud-africaines vont rechercher pour les rapatrier les restes de militants anti-apartheid morts en exil. Deuxième opération du genre après une première l'an dernier qui avait permis de rapatrier 42 dépouilles mortelles. Et puis avant de retrouver Julien Coquelroem pour la suite d'RFI Matin, notre dossier ce dimanche nous emmène au Cameroun où cette semaine c'est le cinéma et pas l'inverse qui est venu aux spectateurs. Le cinéma itinérant du cinéma numérique africain et de la Cinémathèque Afrique a fait étape à Douala et dans ses environs. Reportage de Polycarpe Essomba.
Sur l'esplanade de la commune de Dibombari, sous un grand arbre et en plein air, un peu plus d'une cinquantaine de personnes ont pris place. Elles sont de tout âge, de tout genre et dans un instant, elles vont vivre pour la plupart la première projection cinéma de leur vie. Et lorsqu'arrivent les premières images sur l'écran géant après quelques essais, c'est l'émerveillement.
Pour moi, c'est énorme. J'ai 27 ans et je n'ai jamais été dans une salle de cinéma. Bien sûr, j'en ai déjà vu à la télé ou dans des vidéoclubs, mais là, clairement, ça n'a rien à voir.
Randy Guine, influenceur franco-camerounais, accompagne les organisateurs dans ces diffusions itinérantes. Et pour lui, l'idée est merveilleuse.
Je suis très content d'être là, de voir l'engouement que le cinéma africain et aussi notre héritage provoque, de rassembler toutes ces personnes ici à Dibombari.
À rapprocher le cinéma africain de son public, tout le sens de la bataille de Stéphanie Ndokmo, cette ancienne journaliste à la tête de l'antenne Cameroun du réseau panafricain CNA, le cinéma numérique africain.
Nous apportons le cinéma d'Afrique aux populations africaines, le but étant de pouvoir faire vivre et revivre ces films-là auprès de leur public parce que ce sont des films qui sont faits pour nous, pas nous, des films pour nous.
Outre Dibombari, localité située à quelques kilomètres de Douala, les films sélectionnés pour ainsi être projetés en plein air ont été diffusés à Boko, un quartier défavorisé de Douala, mais aussi sur les plages de sable fin de la ville de Kribi au sud du pays. Polycarpe Essomba à Douala, RFI.
Et quels films présentaient des classiques du cinéma du continent, mais aussi des films adaptés à chaque public local, explique Aïssa Diaby, chef de projet de la Cinémathèque Afrique de l'Institut français, l'un des deux organismes qui gère le projet.
Nous avons de nouvelles ambitions pour cette Cinémathèque Afrique et du coup on a plusieurs missions. Tout d'abord de préserver les films. Il faut savoir qu'on a plusieurs films qui datent des années 60, 70, 90, qui sont parfois sur des supports comme des bobines, donc qui sont très vite dégradable. Et aujourd'hui, il est urgent de pouvoir préserver ces films-là en les restaurant et en numérisant. Deuxièmement, c'est une fois que ces films sont préservés, ils sont restaurés, ils sont faits pour être vus. Donc notre objectif, c'est aussi de les rendre accessibles à un large public et c'est également de les diffuser. On a sélectionné le Cameroun pour travailler aussi avec l'Afrique centrale parce qu'on a plusieurs activités qu'on a fait en Afrique de l'Ouest. On s'est dit, ce serait bien de travailler aussi avec l'Afrique centrale et c'est comme ça qu'on a choisi le Cameroun. C'était par rapport aux partenaires locaux qu'on a trouvé assez solides. Et puis, c'est important d'amener le cinéma là où les gens n'en ont pas accès. Et donc, c'est ce qu'on souhaitait faire aussi, de démocratiser le cinéma africain, de le promouvoir à tous, à un public large et diversifié.
Aïssa Diaby de la Cinémathèque Afrique de l'Institut français à Douala, au Cameroun, où elle était interrogée par notre correspondant à Douala, où il est 7h44.